RCF.
Nous approchons de la Toussaint, une fête que tout le monde vit plus ou moins bien. Et c'est avec vous, Père Paul-Antoine Drouin, que nous allons aborder ce sujet. Alors, on distingue quand même la Toussaint de la fête des morts.
Oui, bonjour à tous. C'est vrai que c'est assez lié dans notre pensée. Mais finalement, le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Le 2 novembre, c'est le jour où on se remémore les morts. Et on vient les déposer sur l'autel en disant « Seigneur, ils sont près de toi ». Rassure-nous, dis-nous qu'ils sont aussi près de nous, quoi. Mais c'est d'abord la Toussaint qu'on fête le 1er novembre, ouais, avec cette kyrielle de saints qui sont connus et puis tous les inconnus. Mais voilà, c'est l'Église, en fait, elle veut nous mettre ça devant les yeux, non pas pour nous effrayer, mais pour nous encourager. Hein. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans nos églises, souvent les vitraux que l'on voit nous présentent des figures tellement fascinantes, avec des hommes ou des femmes qui ont vécu, en fait, des conversions de vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été des hommes et des femmes superbes en toutes choses dans leur vie, mais à un moment, ils ont compris qu'il fallait qu'ils changent. Bon, on a Marie souvent qui préside dans les vitraux, dans les statues de nos églises, mais on a aussi Pierre et Paul. J'aime beaucoup rappeler que quand même, il y a un traître et un assassin, quoi. Et c'est ça la figure de sainteté que l'Église met devant nos yeux. Vous voyez ces hommes, celui qui a trahi son ami, celui qui a du sang sur les mains, ont pu convertir totalement leur vie, quoi. Et c'est pour moi, à chaque fois que je les regarde, je me dis, mais c'est un encouragement en disant, ben, tombe pas dans la déprime en disant que t'es pas terrible, parce que ça, c'est en plus, c'est souvent l'œuvre du démon qui nous dit tu vaux rien, et voilà.
Il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse.
Mais l'excès inverse qui nous dit non, c'est pas justement la sainteté, c'est nous dire bah non, reste pas dans l'état dans lequel tu es là, tu vaux beaucoup plus que ça. Et c'est la parole de Dieu, quoi. Vous savez qu'on a, c'est tu as du prix à mes yeux, et tu choisis la vie, tu vaux beaucoup plus que ça. C'est ça la sainteté, un encouragement à aller de l'avant. Et il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous disent qu'on a du prix et qu'on vaut cher, quoi. Et là, Dieu, c'est le pari qu'il fait sur chacun de nous.
Et le pape François a canonisé plusieurs figures ces temps-ci. C'est volontaire.
Oui, alors il est dans la lignée. Alors ça dure déjà, on va dire, parce que Jean-Paul II avait été quand même un pape qui a énormément canonisé, Benoît XVI aussi et le pape François aussi. Avec une petite une touche personnelle que Jean-Paul II a voulu mettre. Moi, je me souviens d'avoir visité la congrégation pour le culte des saints au Vatican. Et le message qui était donné aux membres de cette congrégation par le pape Jean-Paul II, c'était « Donnez-moi des couples à canoniser ». Parce qu'il dit « C'est bien, on canonise des religieuses, on canonise des prêtres, mais donnez-moi des couples à canoniser ». Ça, c'était un leitmotiv chez lui pour donner cette figure. Voilà, la vie de couple, c'est la vocation première et c'est une vocation à la sainteté aussi.
Donc nous sommes tous appelés à vivre la sainteté avec nos qualités et nos défauts.
Oui, et c'était le grand rappel du Concile Vatican II, je le redis quand même, dans la constitution centrale Lumen Gentium, la constitution sur l'Église, en plein cœur des chapitres, c'est l'appel universel à la sainteté. Moi je me dis des fois c'est un petit peu la revanche de Dieu, parce qu'on disait la sainteté c'est pour les curés et les bonnes sœurs. À partir de Vatican II, on dit non, maintenant c'est fini, c'est pour eux aussi, mais c'est pour tous, quoi. Et la sainteté, on le redit, hein, c'est vivre de manière chrétienne dans son lieu de vie quotidien. Quoi. C'est simplement ça.
Alors, dans la chapelle Saint-Liboire de la maison Saint-Julien, vous avez prévu un mur où on montrera un petit peu les différents saints de notre département.
Voilà, c'est ça. Donc, un mur avec des petites alcôves lumineuses qui sont comme des petites lumières, des veilleuses en fait. Et il y aura 16 icônes qui vont être déposées. Alors, ça va se faire peut-être sur 2 ans parce que le temps de, comme on dit, écrire une icône, c'est assez long. Mais avec des visages de sainteté locaux. Et alors, soit qu'ils sont canonisés, soit qu'ils ne le sont pas encore, hein, mais que nous, on estime beaucoup. Et ça, c'était une volonté de notre évêque pour dire, mais la sainteté, voilà, on peut la vivre chez nous, ici en Sarthe. Il y a déjà eu des belles figures, il y en a certainement parmi nous, et il y en aura encore après.
Et qui va réaliser ces icônes?
Alors justement, on est un peu dans les devis en ce moment, parce que c'est un certain coût quand même, ce travail. Et puis c'est surtout du temps, donc on essaie de voir ça très prochainement, on va y arriver.
Alors donc on a parlé de la Toussaint, mais le lendemain c'est la fête des morts, on se remémore un petit peu tous nos disparus dans nos familles.
Oui, parce qu'on en a besoin les uns et les autres, même si on n'attend pas le 2 novembre pour penser à eux, mais c'est ce jour où justement à la suite des saints, de dire ceux qui étaient les défunts de nos familles avaient aussi un chemin de sainteté. Parce que rappelons-le, hein, il n'y a aucune situation de vie, c'est clair, il n'y a aucune situation de vie qui ne soit pas ouverte à la sainteté. Et donc, lier les deux fêtes, le premier et le deux, c'est dire, ben, nos défunts aussi, ils font partie de ce pèlerinage de sainteté que le Seigneur nous propose, quoi. Donc, c'est souvent par l'Eucharistie que nous, les chrétiens, on manifeste notre mémoire aussi par rapport à nos défunts, parce que on se dit c'est par la mort et la résurrection de Jésus qu'on a cette espérance que nos défunts vivent déjà une part de la résurrection.
Donc l'Eucharistie c'est important, et puis il y a le côté, je dirais, le geste que l'on fait d'apporter des fleurs sur les tombes.
Oui, et sûrement que là-dessus on a une éducation à donner et à réhabiliter. Là aussi, hein, qu'est-ce qu'on fait de... C'est la dernière demeure. Vous savez, le cimetière, hein, ce mot, ça, c'est un mot grec et qui veut dire le lieu où l'on dort, le dortoir. Hein. C'est-à-dire ce lieu, c'est le lieu où on attend la résurrection des morts. Mais aussi l'entretenir, aller faire une petite visite. Alors on est plus ou moins attaché à ce rite, mais ça a quand même du sens, parce que je veux dire, c'est incarné.
Et c'est peut-être bien d'y aller aussi avec les enfants, parce que c'est l'occasion de parler de la mort et de la résurrection.
Oui, et autant le moment, je trouve, des funérailles, quand on descend le cercueil dans le caveau, est un moment assez, j'allais dire, brutal. Et pour des enfants, on peut se poser la question de savoir s'il faut qu'ils soient là ou pas. Mais après, de passer en visite dans ce dortoir, dans ce lieu du repos, c'est vraiment éduquer les jeunes et puis à garder aussi la mémoire, quoi, des aînés. Mmh. La vie, elle me vient aussi de ceux qui m'ont précédé. Et moi, je l'ouvrirai à ceux qui viennent après, quoi.
Et puis de se rappeler aussi des bons moments vécus avec la personne.
Oui. Et puis de faire attention aussi à ce corps qui retourne en poussière, mais qui n'est pas rien, quoi. Ce corps qui nous a transmis la tendresse et tant de choses, quoi.
En tous les cas, nous sommes donc tous appelés à vivre la sainteté.
C'est le programme qui nous est fixé.
Merci beaucoup, Père Paul-Antoine Drouin.